Accent d'Europe, Juliette Garbrandt.
I took a chance to build a world of mine.
Bonjour, nous parlons frontières aujourd'hui, territoriales, économiques ou encore culturelles. Un atlas des frontières vient de paraître et nous entendrons l'un de ses auteurs. La plus récente frontière de l'Europe, on la doit au Brexit. C'est la frontière douanière en mer d'Irlande. Elle fait l'objet d'un bras de fer entre Londres et Bruxelles. Les 27 viennent de proposer d'alléger ces contrôles, mais les propositions ne satisfont pas les Britanniques. Symboliquement érigée au début de l'année pour garantir le contrôle des marchandises qui entrent et sortent de l'Union européenne, elle implique par définition des contrôles douaniers au sein même du Royaume-Uni, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et cette pilule passe mal. Notre correspondante à Dublin, Emeline Vin, nous explique pourquoi.
Il y a les problèmes pratiques. Le protocole impose une frontière en mer d'Irlande et qui dit frontière dit contrôle. Contrôle phytosanitaire, formalité administrative, certification vétérinaire. Certains fournisseurs britanniques ont arrêté de livrer en Irlande du Nord face à la charge administrative. Pour les autres, tout prend plus de temps. Alors on ne parle pas de pénurie, hein. Les Nord-Irlandais ont encore des rayons bien remplis dans leurs supermarchés, mais les chaînes d'approvisionnement sont sous tension. Et puis, il y a des problèmes symboliques. Une frontière douanière en mer d'Irlande, c'est une frontière au cœur du Royaume-Uni qui sépare une province du reste de l'Union britannique. Et ça, c'est difficilement acceptable pour la communauté unioniste d'Irlande du Nord, à majorité protestante, celle qui est très attachée à son identité britannique. Cela fait des mois que les partis unionistes, dont le DUP au pouvoir à Belfast, demandent l'abolition du protocole nord-irlandais qu'ils présentent comme une menace à l'intégrité du Royaume-Uni. Londres, de son côté, dénonce le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est cette institution qui doit superviser la bonne application du protocole. Pour le Royaume-Uni, cela pose un problème de souveraineté. Petit rappel, se débarrasser de la tutelle européenne pour retrouver la souveraineté nationale, c'était l'un des thèmes de campagne des Brexiteurs en 2016.
Et quel type de solution peut-on imaginer ?
Dans l'idéal, il faudrait que Londres s'engage à respecter les normes sanitaires et vétérinaires de l'UE, auquel cas, pas besoin de contrôle. C'est hors de question pour les Britanniques. Normes divergentes, donc égale contrôle obligatoire, égale frontière. La seule alternative au protocole qui ait été trouvée en 4 ans de négociations, c'est une frontière terrestre entre les deux Irlandes. Inacceptable pour le camp nationaliste d'Irlande du Nord et tout à fait contraire à l'esprit de l'accord de paix de 1998.
Pour en revenir au protocole, l'Union européenne est prête à céder, non ?
Ça dépend sur quoi ? Sur les contrôles, oui. La semaine dernière, Bruxelles a proposé de les alléger. 80% des produits n'auront plus besoin d'être vérifiés à leur entrée en Irlande du Nord et la paperasse devrait être réduite de moitié. Sur la Cour de justice, par contre, hors de question de bouger pour Bruxelles, c'est un pilier du protocole. Londres donc semble peu disposé à accepter les propositions. Plusieurs sources britanniques, dont l'ancien conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, expliquent que le Premier ministre ne veut rien d'autre que l'abolition du texte. Et à Belfast, la question divise. Les unionistes aussi veulent le renoncement au protocole nord-irlandais et l'abandon d'une frontière au milieu du pays. Ils menacent même de se retirer et donc de faire chuter le gouvernement local qui dépend d'un complexe système de partage du pouvoir. Le reste du spectre politique, principalement les nationalistes, trouvent que les propositions de Bruxelles sont un bon compromis.
Et les entreprises dans tout ça, Emeline, qu'est-ce qu'elles en disent ?
Pour elles, le protocole nord-irlandais est une opportunité. Les organisations professionnelles admettent que oui, il y a des problèmes, les nouveaux arrangements ralentissent le commerce et le temps, c'est de l'argent. Mais s'il fonctionne correctement, le protocole permet un accès au marché britannique et au marché européen sans droits de douane et sans trop de complications. Le meilleur des deux mondes, comme on dit en anglais. Si en plus l'Union européenne réduit la quasi-totalité de ses contrôles, c'est positif sur toute la ligne.
Merci Emeline. Emeline Vin, notre correspondante à Dublin.
Welcome to the Hussovina border, come see what we got. Contrabanda, grand order side.
L'Europe se hérisse de murs et de barrières à la frontière entre la Grèce et la Turquie ou à celle de la Hongrie dès 2015 pour arrêter les réfugiés. C'est aujourd'hui la Lituanie qui s'apprête à s'isoler de la Biélorussie en construisant un mur qui devrait être achevé au printemps prochain. Objectif, là encore, empêcher l'arrivée de migrants que le gouvernement d'Alexandre Loukachenko instrumentalise en réplique aux sanctions européennes. En l'espace de quelques semaines cet été, plus de 4000 personnes, irakiennes en majorité, étaient arrivées en Lituanie. C'est un reportage de Marielle Vituro.
des arbres en lisière d'un champ et le gazouillis des oiseaux. Dans le sud de la Lituanie, à côté de la ville thermale de Druskininkė, la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie ressemblait à cela cet été. Ahmed, irakien rencontré dans un camp en juillet, a raconté comment il l'a franchi, très simplement.
J'ai pris un taxi jusqu'à la frontière de la Lituanie. J'ai traversé à pied avec un groupe de gens que j'ai rencontrés à l'hôtel. Nous étions en train de marcher quand l'armée lituanienne nous a trouvés et ils nous ont emmenés.
Aujourd'hui, l'ambiance a bien changé. Le 10 août, à la quasi-unanimité, le Parlement lituanien a décidé de construire une barrière faite de barbelés coupants d'une hauteur de 4 mètres. Les 100 premiers kilomètres devraient être terminés au printemps prochain. Une nécessité pour la ministre de l'Intérieur, Agnė Bilotaitė.
Il est évident que nous avons besoin d'une barrière physique. Elle doit être construite rapidement. La semaine dernière, j'ai parlé avec mes homologues. Tout le monde comprend clairement qu'il s'agit d'une agression contre l'Union européenne, contre la Lituanie, et que nous devons y répondre.
D'ailleurs, de nombreux pays comme le Danemark, la Slovénie ou l'Estonie y contribuent en offrant des rouleaux de barbelés. De l'autre côté de cette barrière habitent les Biélorusses. Ils comprennent la situation dans laquelle se retrouve la Lituanie et n'ont pas oublié le corridor humanitaire mis en place pour les aider à fuir leur pays. Mais Janis Kuczynski, conseiller de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, s'en inquiète tout de même.
Nous sommes convaincus que les murs séparent les gens, qu'il faut plutôt construire des ponts que des barrières. De plus, ça pourrait toucher des Biélorusses qui voudraient fuir leur pays car ils sont sous le coup d'une arrestation. Ce sera plus compliqué s'il y a un mur.
Aujourd'hui, le flux des migrants s'est tari. Près de 4000 personnes ont été refoulées depuis le 2 août dernier. Le mur sera néanmoins construit. Pour Vinius, il s'agit de faire face à de nouvelles menaces et pour cela, la politique de l'Union européenne doit changer. La Lituanie a déjà le soutien de 14 États membres prêts à demander à ce que des murs aux frontières extérieures de l'Union européenne soient financés par la Commission. Un forum sera organisé à Vilnius en janvier prochain entre les pays européens ayant une frontière extérieure.
Bloody, bloody border. Singing every time. We want freedom to cross. Freedom to pass.
L'Atlas des frontières, coécrit par Frédéric Ancel et Hugo Billard, vient de paraître. Il passe en revue avec une foule d'illustrations les frontières de la planète, frontières multiformes et en perpétuelle évolution. Sous-titré « Retour des fronts, essor des murs », l'ouvrage revient sur les spécificités de l'Europe, notamment celles de ses régions, et sur la question des migrations. 20 000 morts depuis 2014, selon l'OIM, sans doute 50 000 depuis les années 90. C'est le bilan des pertes sur la route de ceux qui migrent vers l'Europe. L'Union européenne a-t-elle failli? Les migrants sont-ils devenus à leur corps défendant une nouvelle frontière? On en parle avec Hugo Billard, co-auteur et professeur d'histoire-géographie.
L'Union européenne aide les États membres qui ont une frontière extérieure à gérer ces frontières. Ce n'est pas l'Union européenne qui gère les frontières extérieures, ce sont les États membres de l'extérieur de l'Union, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, pour prendre uniquement ceux qui sont au sud de l'espace européen, qui gèrent ces frontières-là. La question aujourd'hui est de savoir si l'Union européenne et les États membres ont une responsabilité vis-à-vis des territoires qui créent des migrants. Pourquoi est-ce que la France est partie au Mali? Pourquoi est-ce qu'elle intervient au Niger? Pourquoi est-ce qu'elle aide au Tchad, etc.? C'est pour tenter de sédentariser les populations et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de partir vers l'espace européen. Et donc, si vous vivez dans des conditions économiques extrêmement difficiles ou politiques extrêmement difficiles, votre objectif est de quitter ces territoires-là, évidemment, pour vous rendre dans un espace de paix. Une partie des Irakiens, des Syriens, des Afghans, etc. ont également pensé de cette manière-là. Donc, l'objectif de l'Union européenne, à un moment donné, est de gérer ces frontières extérieures de telle manière que les arrivées de migrants soient contrôlées. Et c'est là que s'opposent les politiques des États européens, d'où la question de la solidarité européenne dans le rapport aux migrations. Et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui pose le plus grand problème, c'est que vous avez aujourd'hui, en réalité, deux Europes dans ce rapport aux migrations, ceux qui n'en voient pas et n'en veulent pas, et ceux qui les voient et voudraient que les autres partagent avec eux le fruit de l'accueil.
Est-ce qu'on n'a pas quand même cette nouvelle frontière qui sortirait un peu du territoire européen stricto sensu, notamment avec les accords accord en Turquie qui confère des droits à la Turquie sur nos frontières d'une certaine manière.
Alors oui, mais il ne faut pas exagérer le processus. C'est-à-dire que les accords de 2015-2016 qui ont été passés entre le Conseil européen et la Turquie pour dire à la Turquie « on vous donne de l'argent et en échange vous retenez les migrants chez vous, vous faites en sorte qu'ils n'en passent pas trop », c'est quelque chose qui en fait n'a pas fonctionné. En réalité, lorsque vous regardez où est la Turquie et où sont les îles grecques qui servent de frontières, on a parfois 8, 9, 10 kilomètres de mer. Il est assez facile à quelqu'un de passer le bras de mer. Enfin, c'est toujours des conditions dramatiques, mais c'est assez facile à passer. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur le sol européen, l'Union européenne et l'État de l'Union qui vous accueille est obligé de prendre en compte votre demande de statut de réfugié, c'est souvent le cas, ou votre demande de passage vers le Royaume-Uni, ce qui pendant très longtemps a été le cas également. Et la Turquie a joué avec ça en disant à l'Union européenne, donnez-moi de l'argent, je retiens les migrants, mais si vous ne le donnez pas, je relâche des migrants. Et ça a été en réalité un jeu de go géopolitique entre l'Union européenne d'un côté et la Turquie de l'autre, dont les migrants ont été de fait les victimes.
Il y a des frontières, Hugo Billard, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Ce sont celles des euro-régions. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quelles conséquences sur les habitants ?
Une euro-région, c'est un regroupement, une coopération de régions frontalières à l'intérieur de l'Union européenne. Vous en avez aujourd'hui une bonne trentaine à l'intérieur de l'espace européen. Une frontière, par nature, c'est discontinu. Vous avez une population d'un côté, une population de l'autre, avec des normes qui ne sont pas les mêmes, avec des règlements qui ne sont pas les mêmes. En réalité, ces euro-régions, au fur et à mesure de la construction européenne, ont eu pour objectif de faire coopérer les régions qui ont une frontière en commun pour faire en sorte que les normes de part et d'autre soient les plus faibles possibles. Et ça a aussi été un des instruments de la construction européenne, ces euro-régions. Encore aujourd'hui, vous pouvez vivre en Allemagne et aller travailler en France, vivre en Belgique et aller travailler aux Pays-Bas. Et les normes de circulation sont les mêmes. Évidemment, les frontières semblent avoir disparu. Aujourd'hui, une partie de nos concitoyens européens sont en réalité autant européens qu'ils sont de leur nationalité.
Et du coup, on a une perception peut-être un peu différente de la frontière, selon qu'on est justement dans une de ces euro-régions ou pas.
Bah, aujourd'hui, vous avez trois types de frontières, en réalité, à l'intérieur de l'espace européen. Vous avez les frontières entre les métropoles et les autres, entre Paris et le désert français, comme disait Jean-François Gravier. Vous avez les frontières entre ceux qui vivent de part et d'autre d'une frontière développée et l'intérieur des terres, et ceux qui vivent uniquement à l'intérieur d'un territoire. Par exemple, ceux qui vivent dans les espaces relativement dépeuplés de l'intérieur français vont avoir du mal à comprendre la notion même de frontière qui peut exister à l'extérieur. Le français qui vit en Alsace, l'allemand qui vit dans le Bade Württemberg n'aura aucun problème à comprendre qu'une frontière peut être passée et qu'il est important que les normes, justement, soient celles qui facilite, qui accélère encore plus ces circulations. Celui qui ne voit pas la frontière, qui ne sait pas ce qu'est une frontière, peut se vivre en réalité dans une situation frontalière avec le riche d'à côté, avec celui qui habite la ville d'à côté, loin, qui a plus d'avantages, avec celui qui vit dans le pays d'à côté, qui semble plus développé économiquement. Donc les frontières sont de moins en moins politiques, de moins en moins économiques et sociales en réalité. Elles sont économiques et sociales aujourd'hui, mais elles sont peut-être de plus en plus identitaires et culturelles. Et c'est ce type de frontières-là qui aujourd'hui pose question.
Hugo Billard, co-auteur de « L'Atlas des frontières », s'est publié aux éditions Autrement. Parmi les zones d'Europe aux frontières sous tension, il y a les Balkans occidentaux et les pays de l'ex-Yougoslavie. 13 ans après la proclamation de son indépendance, le Kosovo est toujours divisé. Les autorités de Pristina n'ont que très peu d'influence sur la zone serbe du nord de la ville de Mitrovica, zone toujours sous contrôle de Belgrade. Début octobre, les tensions sont montées au point que Mitrovica Nord a été coupée du reste du Kosovo par des barricades. Les explications de notre correspondant Laurent Gélin.
Il est parfois plus facile de franchir une frontière internationale que le pont séparant les quartiers albanais et serbes de la ville de Mitrovica. Ces dernières semaines, le nord du Kosovo a même été à deux reprises coupé du reste du pays par des barricades. La première crise avait commencé le 20 septembre, quand le gouvernement de Pristina avait décidé d'interdire l'entrée des véhicules immatriculés en Serbie au nom du principe de réciprocité que le gouvernement kosovar tente d'imposer à l'égard de Belgrade. En effet, la Serbie refuse l'accès aux véhicules portant la marque RKS pour République du Kosovo. Dès que la mesure est entrée en application, la population serbe a coupé tous les accès au secteur nord, le gouvernement serbe s'empressant de jeter de l'huile sur le feu, faisant avancer des blindés aux abords de la frontière. Un compromis provisoire a finalement été trouvé grâce à l'entremise de l'Union européenne. Les véhicules peuvent à nouveau circuler entre le Kosovo et la Serbie, mais doivent recouvrir de stickers blancs les marques nationales, tant kosovares que serbes, de leurs plaques d'immatriculation. Ce qui n'a pas empêché une nouvelle flambée de violence le 13 octobre dernier, quand des centaines de jeunes serbes ont affronté les unités spéciales de la police du Kosovo, qui menaient une opération anti-contrebande au nord de Mitrovica. 10 personnes ont été blessées avant que les forces de sécurité de Pristina ne battent en retraite, mais le fossé qui sépare les deux communautés est plus important que jamais.
C'est notre chronique culture et ça se passe à Amsterdam. Longtemps, l'art du portrait a permis aux aristocrates et citoyens fortunés d'immortaliser leur visage en peinture. Dans l'exposition « Ne m'oublie pas », le Rijksmuseum met en lumière les portraits de la Renaissance. Parmi la centaine de tableaux présentés, ceux de deux hommes d'origine africaine du XVIe siècle. Il s'agit des premiers portraits d'hommes noirs et ce choix est un nouveau signe de la volonté du musée d'aborder le passé colonial des Pays-Bas. Notre correspondante Anne Leray est allée en parler avec la chef du département d'histoire de ce grand musée.
Représentation de soi faite pour traverser le temps, le portrait est en plein essor à la Renaissance. Dans l'ambiance feutrée du Rijksmuseum à Amsterdam, deux tableaux se font remarquer. Le premier, sobrement titré « Portrait d'un homme africain », est un dessin de Dürer datant de 1508. Le second est une peinture de 1525 signée Jan Mostert. La directrice du département d'histoire du musée, Valika Smulders, avoue être touchée de pouvoir enfin contempler cet afro-néerlandais charismatique, non pas sur un écran, mais sur les 6 messes d'une exposition.
La beauté de ce portrait est qu'il n'est clairement pas la représentation stéréotypée d'un homme noir, comme on a vu cela se développer par la suite sur les peintures de la période coloniale. C'était avant. Sa personnalité est ainsi vraiment visible. Il est rare de trouver ce genre de portrait dans une exposition.
La précédente exposition du Rijksmuseum consacrée à l'esclavage dans les colonies néerlandaises avait nécessité 4 années de travail, une démarche inédite. Aujourd'hui, la présence de ces portraits, les premiers de l'histoire de l'art européenne à représenter des Afro-Européens, est une étape signifiante dans le positionnement du musée.
En tant que musée national d'histoire et d'art des Pays-Bas, nous voulons être au plus près de ce qui intéresse et touche la population, de ce que les gens estiment important. Nous voulons également être moteurs dans le partage du savoir, montrer la voie, rassembler et informer le plus possible en utilisant notre collection. Parler des débuts de la présence afro-néerlandaise aux Pays-Bas est par exemple l'une des choses que nous pouvons faire depuis peu. À travers tout cela, nous voulons rendre l'histoire des Pays-Bas plus complète.
L'évolution de la société et les débats suscités par des mouvements comme Black Lives Matter font donc remonter peu à peu dans les mémoires ce passé laissé à l'ombre des réserves et des archives.
L'esclavage a toujours été étudié dans le monde universitaire et le sujet a toujours existé dans la population qui a des liens personnels avec les gens qui ont été esclaves. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'institutions s'ouvrent enfin au sujet. C'est ça le changement qui est à l'œuvre. Les musées et la société sont en train de se rapprocher.
Valika Smulders, dont les ancêtres ont vécu au Curaçao et au Suriname, tient également à montrer la richesse culturelle des Pays-Bas.
J'ai personnellement des origines dans différents endroits du royaume des Pays-Bas et j'ai toujours senti que c'était une histoire importante à transmettre. Nous avons toujours été un pays diversifié et nous devons le montrer. C'est un aspect de notre histoire. Donc nous n'allons pas nous arrêter à cette exposition. Elle est une étape importante et l'année prochaine, nous allons inaugurer une exposition sur la révolution indonésienne, sur ce moment où l'Indonésie s'est émancipée des Pays-Bas.
Publication, exposition, excuse publique du maire d'Amsterdam l'été dernier pour l'implication des Pays-Bas dans la traite négrière. Ces démarches institutionnelles permettent au pays de retrouver progressivement une partie oubliée de son identité.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Vous pouvez vous abonner sur la page podcast du site de RFI, rfi.fr, ou sur votre plateforme préférée, bien sûr. À bientôt.